en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Sommes-nous seuls ? Y a-t-il une vie dans l'univers ? Et quel type de vie cherche-t-on ? Ces questions formulées depuis l'Antiquité sont au cœur de l'exobiologie, plus connue à l'étranger sous le nom d'astrobiologie, science qui a pour finalité ultime la découverte d'une vie extraterrestre. Écoutez la conférence d'André Braque, astrobiologiste au Centre de biophysique moléculaire au CNRS d'Orléans. Cette conférence avait lieu au Bureau des Longitudes en février 2010.
Je vais essayer de raconter une longue histoire en une heure, mais si je déborde un peu, je vais demander votre indulgence. Donc, du rêve à la réalité, pour répondre à une préoccupation de l'esprit humain qui remonte aussi loin que les philosophes grecs. Et donc, je traiterai essentiellement de cette question. Sommes-nous seuls ? La vie est-elle universelle ? Qu'est-ce que la vie ? Quelle vie cherche-t-on ? Quels ingrédients ? Où chercher les mêmes ingrédients ? Comment détecter la vie ? Pourquoi chercher une vie extraterrestre ? Donc, les idées remontent au moins à Épicure, qui écrivait à Hérodote en 300 avant Jésus-Christ, « Les mondes sont en nombre infini et on ne saurait démontrer qu'ils ne sont pas habités. » Depuis Hérodote, d'autres penseurs ont repris cette idée avec plus ou moins de bonheur. Je pense notamment à Lucrèce et surtout Giordano Bruno, qui fut brûlé sur la place Campo de Fiori à Rome en l'an de grâce, si je puis dire, 1600, et pour avoir entre autres affirmé contre l'Église que la vie était universelle, entre autres parce qu'il avait d'autres péchés à son actif. Et ensuite, bien entendu, Bernard Lebovier de Fontenelle, dans ses entretiens sur la pluralité des mondes, Christian Huygens, Emmanuel Kant et toute la littérature de science-fiction. Ça, c'est pure intuition, déclarée avec force. C'est à nous, scientifiques, de démontrer, donner une réalité attestée, une réalité scientifique à cette intuition. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire cet après-midi. Qu'est-ce que la vie ? Déjà, la première question est une énorme question qui a souvent autant de réponses que de personnes qui essayent d'apporter une réponse. Pour nous, chimistes des origines de la vie, nous considérons comme vivant tout système ouvert, donc qui reçoit nécessairement, ce n'est pas un système isolé, qui reçoit nécessairement de l'énergie et de la matière première, un système ouvert qui est capable d'auto-reproduction, donc faire plus de lui-même par lui-même, et capable d'évoluer. Les deux qualités sont absolument requises, car l'auto-reproduction permet la prolifération de l'espèce, l'évolution permet au système de se perfectionner et surtout d'augmenter la biodiversité. Ne sont pas considérés comme vivants, et ça heurte souvent certains biologistes, les virus actuels, car à nos yeux, ils sont parasites, ce sont des parasites incapables d'auto-reproduction. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, pas vivants. Les cristaux minéraux sont capables de transférer une information. Tous ceux qui ont ensemencé une solution sursaturée de sel en ajoutant un simple cristal, un germe, et voir toute la solution devenir solide et cristallisée, savent très bien que les cristaux transmettent un petit peu d'informations, mais si vous faites la cristallisation 1000 fois, vous n'obtiendrez jamais de mutants. Donc les cristaux ne vivent pas car ils sont incapables d'évolution. Sur Terre, la vie émergea dans l'eau avec la chimie du carbone. C'est ce couple-là que nous prenons comme référence pour rechercher une vie extraterrestre. Alors tout de suite, vous allez me dire, manque d'imagination, simple anthropocentrisme, mais je vous répondrai tout de suite que ce couple, la chimie du carbone et l'eau, ont des propriétés, des vertus très particulières qui ont été démontrées en laboratoire. Vertus qui sont essentiellement liées pour l'eau à la liaison hydrogène, petite liaison hydrogène qui s'établit entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène dans l'eau. Et ce réseau de liaison hydrogène est une caractéristique très particulière de l'eau. Et pour le carbone, sa caractéristique principale, c'est sa tétravalence. Il a quatre bras. On peut construire à partir de ce carbone tétravalent des architectures de plus en plus complexes, architectures qui sont nécessaires pour que le système puisse évoluer. L'eau comme solvant, puisque les pièces, les éléments présents doivent pouvoir bouger, se reconnaître, s'assembler pour former les premiers systèmes capables d'autoreproduction. L'eau est un solvant qui permet la mobilité des molécules organiques, donc les molécules à base de carbone. L'eau dissout les sels minéraux et les sels minéraux ont participé à cette chimie dans les océans qui a permis l'émergence de la vie. L'eau forme également les argiles à partir des silicates. Les argiles ne peuvent se former que par érosion des phyllosilicates, des silicates par l'eau. Et enfin, l'eau est un bon conducteur de chaleur. Et je vous donnerai comme exemple un exemple inspiré des fumeurs noires, donc des sources hydrothermales sous-marines, comme Rainbow ici, dont je parlerai plus tard. Et avec des Japonais, en collaboration avec des Japonais, les Japonais ont institué un système qui permet d'utiliser la trempe thermique. Ici, vous avez 350 degrés à la sortie du fumeur ici, et juste à côté, au fond des océans, la température est de l'ordre de 2 à 4 degrés. Donc, vous avez une trempe thermique brutale qui fait passer de haute température, haute pression, puisque nous sommes à 2000 mètres de profondeur, haute température, haute pression, à basse température, haute pression. Et les Japonais ont mimé ceci dans un système qui permet de recycler, de faire tourner, de cycler une solution de glycine qui est le plus simple des acides aminés et cette solution passe rapidement d'une chambre haute température, haute pression, donc c'est 200 degrés ici, à haute pression, 0 degré. Alors si la solution, on ne fait pas circuler la solution dans ce circuit, la glycine est décomposée car 200 degrés est une température qui détruit la glycine. Mais si on fait tourner ce cycle ici assez rapidement, en utilisant la trempe thermique qui permet de passer d'une haute température à basse température, on arrive à polymériser la glycine et on obtient des oligomères de glycine jusqu'à 8. Donc on arrive à lier et faire un collier de glycine avec 8 perles dans la chaîne. Donc qui montre très spécifiquement une qualité de l'eau qui est donc un bon conducteur de chaleur et donc permet une trempe thermique importante. Le réseau de liaison hydrogène dans l'eau est extrêmement dense. C'est le réseau le plus dense que l'on connaisse. Comparé par rapport à sa masse moléculaire, au dioxyde de carbone, à SO2 ou à H2S, l'eau devrait être un gaz à la surface de la Terre. En fait, l'eau est liquide parce que ce réseau de liaison hydrogène ici entre l'oxygène et l'hydrogène est extrêmement dense. Et si on considère l'eau HOH comme le plus simple des alcools, puisque le méthanol, c'est CH2OH, etc., quand on monte dans les alcools, et si on extrapole, si l'eau se comportait comme le plus simple des alcools, comme un alcool, l'eau devrait bouillir à 40 degrés. Mais en fait, l'eau boue à 100 degrés parce que il existe un réseau de liaison hydrogène extrêmement dense. Ceci est vrai également pour le point de fusion et pour la constante diélectrique. Donc l'eau se démarque des autres liquides à cause de ce réseau extrêmement dense de liaison hydrogène. Liaison hydrogène qui existe dans les alcools, mais avec un réseau beaucoup moins dense. Donc l'eau a des vertus très particulières qui sont essentiellement liées à cette liaison hydrogène. Alors si dans la chimie, vous avez des groupes, lorsque le carbone est associé à l'hydrogène, le carbone ne peut pas échanger de liaison hydrogène avec l'eau, donc il déteste l'eau. Mais l'oxygène, par contre, lui, peut échanger des liaisons hydrogènes, donc il aime l'eau. Et donc, vous avez dans une même molécule, qui est ici un phospholipide qui forme les membranes, vous avez des groupes qu'on appelle hydrophobes, donc carbone-hydrogène, qui détestent l'eau, qui fuient l'eau, et vous avez des groupes qui attirent l'eau, qui aiment l'eau. Et lorsque ces groupes coexistent dans une chaîne comme ici, ils se forment des structures très particulières comme des liposomes, des vésicules, où les groupes hydrophobes qui détestent l'eau se rassemblent, s'agrègent pour échapper à la pression de l'eau, car ils détestent l'eau. L'eau est également un réactif chimique, H2O. Si on regarde, par exemple, la synthèse de la glycine qui se fait à partir d'ammoniac, d'un aldéhyde, le formaldéhyde et d'acide cyanhydrique, vous voyez que la glycine, qui est le plus simple des acides aminés, NH2, CH2, COH, a deux atomes d'oxygène. Donc, on pourrait se dire, cet oxygène-là vient évidemment du formaldéhyde. Or, il n'en est rien. Si vous regardez le schéma de synthèse dit de Strecker, vous voyez que, en fait, ces deux oxygènes viennent de deux molécules d'eau qui viennent s'intercaler dans le cheminement chimique qui permet, en partant d'ammoniac, de formaldéhyde et d'acide cyanurique, l'oxygène ne vient pas du formaldéhyde ici, car cet oxygène part au cours de la réaction, mais vient de deux molécules d'eau. Donc l'eau est aussi un réactif qui intervient directement dans la synthèse des molécules. Alors l'eau était présente à la surface des océans très tôt dans l'histoire de la Terre. Nous avons à notre disposition un petit cristal de zirconium, un zircon, qui a été trouvé en Australie et qui est daté de 4,4 milliards d'années. Donc il a 4,4 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. Donc très tôt, ce zircon a été façonné par l'eau. Donc il y avait de l'eau à l'état liquide présente très tôt dans l'histoire de la Terre. Donc pas de problème pour l'eau. Et il y avait de l'eau à la surface de la Terre, car la Terre avait la bonne taille. Si la Terre avait été plus grosse comme Jupiter et Saturne, donc gazeux et pas d'eau à la surface, si la Terre avait été plus petite comme Mercure et la Lune, la force de gravité est insuffisante pour retenir une atmosphère. Sans atmosphère, à cause du diagramme de phase de l'eau, il n'y a pas de couvercle pour maintenir l'eau, donc l'eau s'évapore, et donc la bonne taille et la bonne position par rapport à l'étoile. Si la Terre avait été plus proche du Soleil, comme Vénus, l'eau s'évapore, l'eau est photodissociée dans l'atmosphère avec libération d'hydrogène qui s'évade et formation d'oxygène qui se combine aux roches, et si la Terre avait été à la situation de Mars, au bout d'un certain temps, la température finit par tomber trop loin du Soleil, et l'eau passe dans le sol sous forme de pergélisol. Donc, bonne taille, ni trop grosse, ni trop petite, bonne distance par rapport au Soleil, ni trop près, ni trop loin, juste bien dans ce que nous appelons la zone d'habitabilité, donc la zone d'existence de l'eau à l'état liquide. Les différentes étapes de l'histoire de l'atmosphère, très rapidement, les vestiges de la nébuleuse protosolaire qui ont formé le système solaire hydrogène et hélium ont été soufflés probablement par la phase tétorie du Soleil, donc une activité brutale du Soleil. La deuxième atmosphère, numéro 2, est obtenue par dégazage du manteau au moment du refroidissement de la Terre, mais il y a un impact important lorsque la Terre avait environ 50 millions d'années, impacteur de la taille de Mars, qui a probablement expulser une grande partie de cette deuxième atmosphère obtenue par dégazage. Et enfin, il y a eu très probablement une fourniture extraterrestre tardive, essentiellement démontrée par les météorites et les micrométéorites. Et enfin, la quatrième atmosphère, c'est une atmosphère oxygénée, mais ça, c'est une histoire plus récente puisqu'elle date de 2,6 milliards d'années et provoquée par la photosynthèse oxygénique. Donc, j'aime bien mentionner une origine de l'eau terrestre qui est souvent controversée et qui est proposée par mon ami Michel Morette, qui collecte des micrométéorites en Antarctique. Et si vous regardez le rapport des isotopes des surhaches des océans, c'est l'espèce de gratte-ciel ici. Les océans terrestres sont là. Ici, et l'eau qui est analysée dans les micrométéorites collectées en Antarctique forme cette espèce d'édifice qui encadre très bien le rapport des surhaches moyen des océans terrestres qui est là. Et l'eau cométaire, qui est souvent considérée comme un apport important pour les océans, l'eau cométaire se trouve ici. Donc il est probable que ce ne sont pas les comètes entières qui ont apporté l'eau terrestre dans une arrivée tardive, mais c'est plutôt les micrométéorites collectées par Michel Morette en Antarctique. Les sources de carbone, donc je vous ai dit, eau, pas de problème pour l'eau, on comprend assez bien l'histoire de l'eau. Et alors pour la chimie du carbone, il faut une source de carbone. Les sources de carbone les plus simples sont gazeuses, le dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et méthane. Et les lieux de production que nous allons voir, c'est l'atmosphère. Dès qu'on pense à du carbone gazeux, on pense bien sûr à l'atmosphère. Les sources hydrothermales sont une filière possible et l'espace est la troisième filière que nous allons voir rapidement. Évidemment, quand on pense à l'atmosphère, on pense à l'expérience de Stanley Miller, qui a mis dans un ballon un mélange de méthane, d'ammoniac, d'hydrogène et d'eau, et qui a fait passer des décharges électriques, expérience historique 1953. Il obtient 4 acides aminés, donc expérience formidable qui démontre qu'on peut faire des briques du vivant à partir d'un mélange de gaz. Malheureusement pour M. Miller, la source de carbone qu'il a utilisée, le méthane, n'a pas de réalité prébiotique. On sait maintenant que l'atmosphère de la Terre primitive était dominée par du dioxyde de carbone et contenait peut-être un peu de méthane, mais pas beaucoup. Alors, toujours un grand débat actuellement pour savoir combien de méthane et d'hydrogène il pouvait y avoir dans l'atmosphère de la Terre primitive. Actuellement, c'est pas nul, mais ce n'est pas suffisant parce que quand Miller refait les expériences en remplaçant le méthane par du dioxyde de carbone, les rendements sont extrêmement faibles. Donc, l'atmosphère de la Terre primitive n'a probablement pas été la filière la plus importante pour la fourniture de matières carbonées qui a participé, qui a permis l'émergence de la vie sur Terre. La deuxième source est la filière hydrothermale. Nous avons maintenant une bonne exploration des dorsales océaniques qui séparent les continents. Le long de ces dorsales, il y a bien sûr du volcanisme avec formation des îles comme les Açores qui sont ici et que l'Islande. Et le long de cette dorsale, il y a ces fameux fumeurs noirs qui sont des lieux intéressants, en particulier Rainbow. Rainbow est un fumeur qui a été découvert par l'Ifremer, le Nautile, et qui contient... Les gaz qui s'en échappent sont composés de 45% d'hydrogène, 6% de méthane, 43% de dioxyde de carbone. Alors, hydrogène et dioxyde de carbone, c'est excellent pour la chimie, car avec l'hydrogène, on peut réduire le dioxyde de carbone et fabriquer des composés carbonés. C'est effectivement le cas. Pour l'instant, les géochimistes de l'Ifremer n'ont découvert que des hydrocarbures dans ce fameux Rainbow. Et personnellement, avec l'Ifremer, j'ai fait une campagne au-dessus de ce site et on a essayé de trouver des acides aminés. On n'a pas trouvé d'acides aminés qui soient d'origine non biologique. Donc, pour l'instant, c'est un site intéressant qui continue à être exploré, mais qui n'a pas encore donné de signes attestés de synthèse de composés biologiques. La troisième filière est la filière spatiale. Et en ce qui concerne les impacteurs, enfin l'apport extraterrestre, il faut préciser la taille de l'impacteur. Lorsque l'impacteur est de l'ordre de la tonne, c'est beaucoup trop gros et donc on ne peut récupérer que des cendres. Les impacteurs arrivent à la vitesse cosmique qui est 15, 20, 25 km seconde, des kilomètres à la seconde. Donc ça fait des vitesses considérables, des masses considérables, 1/2 du MV2, l'énergie cinétique est considérable, qui est transformée en chaleur au moment de l'impact. Donc en France, on a la chance d'avoir un bel impact à Rochechouart, un petit peu à l'ouest de Limoges, Rochechouart. Ça ne s'invente pas, mais ça ne s'écrit pas comme choir du verbe choir. Et il y a 200 millions d'années, une météorite de 1,5 km pesant 6 milliards de tonnes a creusé un cratère de 20 km, détruisant toute vie dans un rayon de 20 km. Alors, il reste, on ne retrouve rien de l'impacteur, mais on trouve des brèches. Ce sont du granit qui a fondu sous l'impact, sous le choc. Et cette cuvette ici est une cuvette de brèches qui ressemble, et ces brèches ressemblent beaucoup aux roches volcaniques. D'ailleurs, l'église de Rochechouart et les maisons sont construites avec des pierres un peu poreuses. Et pendant très longtemps, les gens se demandaient comment se fait-il qu'il y ait des roches volcaniques si loin du massif central. Qui s'est amusé à porter des roches volcaniques jusque, je crois que c'est au milieu du 20e siècle. 1960, un géologue a dit, mais ce ne sont pas des roches volcaniques, ce sont des brèches d'impact, donc du granit qui a été fondu par l'impacteur. Et depuis, on peut visiter maintenant, et c'est assez spectaculaire de voir dans cette carrière de granit, le granit qui est fissuré par l'impact et ces brèches ici. Mais ça, c'est trop gros. La tonne, pour nous, c'est beaucoup trop gros. Tout est détruit au moment de l'impact. La plus grosse météorite connue à ce jour est tombée en Namibie, près de la ferme de Oba. Elle pèse 55 tonnes et elle est composée à 84% de fer. Donc, on pense que tout ce qui est plus gros qu'une centaine de tonnes est détruit au moment de l'impact. Ensuite, on a donc La tonne, on oublie. On arrive au kilogramme. Le kilogramme, c'est bien, ce sont les météorites. Par contre, la plupart de ces météorites ne nous intéressent pas trop parce que c'est essentiellement un caillou. Enfin, c'est soit du fer, soit des roches. Donc, s'intéressent les géologues qui s'intéressent à la formation du système solaire, puisque ce sont des roches qui sont contemporaines de la formation du système solaire, mais elles ne contiennent pas de matière carbonée. Souvenez-vous, nous, il nous faut chimie du carbone et où. Donc, chimie du carbone, parmi les 20 000 météorites qui existent dans les collections des muséums, il y a environ 4 à 5% de météorites qui contiennent du carbone, enfin du carbone organique, donc des molécules organiques. La championne est probablement une météorite qui est tombée à Murchison en Australie et qui contient plus de 500 molécules organiques à base de carbone. Donc, et parmi ces molécules, il y a 73 acides aminés, dont 8 acides aminés font partie des 20 acides aminés qui constituent nos protéines. Donc, en plus, certains de ces acides aminés, les acides aminés existent toujours sous deux formes, une forme gauche, une forme droite. Et la biologie, toute la biologie, la vie terrestre, utilise pour les acides aminés la forme gauche. Et il y a dans certains de ces acides aminés un peu plus de forme gauche. Donc nous sommes latéralisés comme ce petit buveur d'eau, je pense que c'est de l'eau, cycladique 2000 ans avant Jésus-Christ. Et nous sommes aussi latéralisés au niveau moléculaire. Toute la vie terrestre est latéralisée, elle n'utilise que des formes gauches des acides aminés. Et c'est effectivement, il y a un peu plus d'acides aminés gauche dans la météorite de Murchison que d'acides aminés droit. Donc la rupture de symétrie qui caractérise la vie terrestre pourrait avoir une origine extraterrestre, pourrait avoir. Et cette rupture de symétrie est absolument impérative, indispensable, car lorsque vous êtes ici en train de passer de l'inerte au vivant, vous êtes en face de deux vallées, la vallée gauche, la vallée droite. Il est clair et démontré en laboratoire qu'on ne peut pas être ni sur la crête ici, en utilisant les deux, ni en même temps dans les deux vallées. Il faut vraiment choisir une des deux vallées. C'est comme la circulation automobile, il faut rouler soit à gauche, soit à droite, mais pas au milieu comme en Inde, ce n'est pas une bonne solution. Donc, kilogramme, c'est bien. Lorsqu'on passe du kilogramme au gramme, ça ne va plus non plus. Donc, le gramme, ce n'est pas bon. Le gramme, ce sont des étoiles filantes. Alors, je suis toujours impressionné par cette litho de la fameuse Amherst météorite de 1833, où, paraît-il, il tombait 200 000 étoiles filantes à l'heure. Les étoiles filantes, c'est l'ordre du gramme qui brûle en percutant, en arrivant dans l'atmosphère. Donc, destruction, on perd tout, sauf le bel effet optique, mais le bel effet optique ne nous intéresse pas particulièrement. Enfin, donc, si on passe du gramme pas productif au milligramme, on arrive dans les micrométéorites ou les poussières cosmiques. Et là, c'est le travail de Michel Moret, déjà cité, qui va collecter dans la glace bleue de l'Antarctique. Alors, la glace bleue, le premier mètre de la glace ici en Antarctique est contaminé par la poussière industrielle. Donc, c'est un siècle de production industrielle. Donc, il faut passer ce premier mètre et en dessous, il arrive à avoir de la glace pure qu'il fait fondre ici pour obtenir un jus qu'il filtre et il récupère les micrométéorites de cette façon avec son équipe. Et ces micrométéorites sont mélangés avec des grains, c'est moins d'un millimètre, hein, des grains clairs qui sont du sable de l'Antarctique. Tout ce qui est noir est extraterrestre. Et vous voyez que certaines de ces micrométéorites se présentent sous forme de billes brillantes. Elles ont fondu, mais 30% de ces grains n'ont pas fondu en traversant l'atmosphère. Donc, et à partir du bombardement de la Lune, ça c'est le pôle sud de la Lune qui a été photographié par une petite sonde américaine Clémentine. Donc on peut avoir la taille des cratères, le nombre de cratères, on a l'âge des cratères grâce aux 380 kg de roches, de certains cratères grâce aux roches ramenées par les missions Apollo. On espérait en ramener d'autres, mais enfin, apparemment c'est mal parti pour en ramener d'autres bientôt. Et à partir de ce bombardement, de la collecte des micrométéorites, de la teneur en carbone de ces micrométéorites, et en transposant l'histoire du bombardement de la Lune à la Terre, on peut estimer, j'ai estimé avec Michel Moret, que La Terre a hérité 25 000 fois la quantité de carbone qui est recyclée actuellement dans la biomasse terrestre à la surface pendant la phase de bombardement. Donc d'énormes quantités de carbone organique. La matière première était présente et très probablement majoritairement d'origine extraterrestre. Et ça, ce que j'apprécie en tant que petit-fils de paysan, c'est les choses qu'on a en main. L'atmosphère, on n'a aucune trace fossile de l'atmosphère de la Terre primitive. On ne peut faire que des modèles. Et les modèles valent ce que valent les modèles. C'est intéressant comme outil de travail, mais ça n'est pas une preuve formelle que nous avons en main. Alors que ça, ce sont des micrométéorites qui ont été collectées et qui ont peu changé. La seule différence avec les micrométéorites qui tombaient il y a 4 milliards d'années, c'est simplement le fait qu'elles traversent aujourd'hui une atmosphère qui est riche en oxygène, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'oxygène. Mais l'essentiel, les micrométéorites sont les mêmes que celles qui bombardaient la Terre, qui tombaient sur la Terre il y a 4 milliards d'années. La mission Stardust a été lancée en 1999 par les Américains. Elle a collecté des poussières de la coma cométaire WILD-2, le 2 janvier 2004, et retour sur Terre, donc exploit technologique extraordinaire avec des aérogels. Malheureusement, donc, il faut freiner ces grains parce que la sonde va vite, les grains vont vite aussi, donc le choc est important. Ce sont des grains qui ont été collectés dans les aérogels et même ce type de collecte est traumatisant puisque la matière organique souffre beaucoup. On récupère de la matière minérale de ces grains qui se sont formés à très haute température. Alors ça a porté encore une pierre dans le jardin des scientifiques qui pensaient comprendre comment s'était formé le système solaire avec les comètes plutôt vers l'extérieur dans les régions froides. Le fait que ces grains cométaires aient été formés à très haute température ont obligé à revoir les modèles et à revoir sa copie. Mais il y a également néanmoins un peu de matière organique. Ont été identifiées des fonctions alcool, cétone-aldéhyde. Et récemment, les Américains ont publié un article en disant qu'il y aurait de la glycine sur les parois de cet aérogel. Donc un acide aminé qui aurait été collecté. C'est extrêmement important. Ceci sera vérifié grâce à la sonde Rosetta. La sonde Rosetta est une sonde européenne qui a été lancée le 2 mars 2004 vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Elle arrivera en 2014, donc il faut être patient. Après un voyage donc, de 10 ans, elle va accompagner la comète pour collecter des grains qui sont donc éjectés parce que la comète arrive à proximité du Soleil. Mais également, il y a un petit atterrisseur qui va se poser sur la comète et creuser la glace, analyser les grains pour savoir à quoi ressemblent les grains avant d'être éjectés par le soleil de la comète. Donc, patience. Et pour arriver jusqu'à la comète, pour gagner en puissance et en vitesse, la sonde est passée deux ou trois fois, je crois que c'est deux fois près de la Terre, pour avoir un effet de fronde. Et donc, le dernier passage a eu lieu le 13 novembre 2009, donc en novembre dernier. Actuellement, elle est en route sur une belle trajectoire. Admirez quand même, je pense que vous admirez comme moi, la précision des orbites. Il ne faut pas rater la Terre, il ne faut pas rater la comète, il faut se poser sur la comète. Et s'ils y arrivent, c'est vraiment un exploit fantastique. Et on espère bien sûr avoir des analyses intéressantes de la matière cométaire. Alors ça, c'est pour la vie terrestre prise comme référence. Chimie du carbone et eau. Parce que ce n'est pas par simple anthropomorphisme, mais parce que nous savons que ce couple est certainement le couple qui a le plus de chances d'être répandu dans l'univers. Et la vie extraterrestre a des chances d'être abondante. S'il existe de nombreux sites extraterrestres où coexistent eau à l'état liquide et chimie du carbone, et si le passage de la matière inerte au vivant est relativement simple. Ça, c'est la grande question. Si le passage de la matière à la vie sur Terre est le résultat d'un acte exceptionnel et très, très complexe, les chances de retrouver un tel phénomène ailleurs, les chances sont réduites. Et donc, on essaye en laboratoire de démontrer, on essaye depuis millénaires, non pas que nous sommes des créateurs, des petits créateurs capables de créer la vie en tube à essai, mais essentiellement d'estimer la complexité du passage de l'inerte au vivant. Et donc, pendant très longtemps, à partir des éléments présents, on a essayé de construire une cellule, car tout le vivant, toute la vie terrestre, de tous les systèmes vivants utilisent le même moteur biologique, le même moteur moléculaire qui est la cellule. Dans la cellule, la copie, le travail de copie est fourni par les protéines. La mémoire, le plan de montage, la mémoire héréditaire est contenue dans l'ARN, l'ADN, l'ADN et l'ARN. Et enfin, comme on est dans l'eau, il faut une membrane pour fermer le tout. Donc, s'inspirant de la vie terrestre et de ce caractère absolument unique du moteur moléculaire, du moteur biologique terrestre, on a essayé de faire en laboratoire des modèles réduits, une cellule réduite avec des modèles réduits d'ARN, de protéines, de membranes. Les nouvelles sont plutôt bonnes. On arrive à faire des mini-protéines en laboratoire, et en particulier, c'est ce que nous avons fait à Orléans, c'est ce que j'ai fait personnellement. On arrive à faire des mini-membranes assez facilement. L'ARN pose un gros problème parce que l'ARN est relativement compliqué. Il n'est pas stable, donc l'idée que les trois constituants se sont fabriqués spontanément, indépendamment les uns des autres, baignant dans le milieu, dans l'eau et se retrouvant, est maintenant totalement abandonnée, car on sait que l'ARN est difficile à faire spontanément et on sait également qu'il n'est pas stable. Donc il est impensable que l'ARN puisse se faire spontanément, rester stable dans l'eau en attendant la rencontre magique d'une protéine et d'une membrane. Donc, entre-temps, nous avons appris par les biologistes que certains ARN, qui sont considérés comme plus primitifs que l'ADN parce qu'ils sont réactifs chimiquement et parce que donc, l'ADN aurait été inventé plus tard pour stocker l'information, un peu comme un disque dur annexe, on a appris que certains ARN sont capables d'être à la fois l'outil et le vecteur de l'information. Donc c'est le fameux un monde ARN qui a probablement précédé le monde cellulaire. Mais le problème reste le même. Cet ARN, pour nous, on n'a pas réussi à faire apparaître, à générer des modèles réduits d'ARN d'une manière simple, en mimant les conditions supposées de la Terre primitive. Peut-être que ces ARN étaient peuplés par des virus, des ancêtres des virus qui, à l'époque, étaient autonomes, donc capables d'assurer leur propre reproduction, alors qu'aujourd'hui, ils ont perdu cette capacité. Une façon de vérifier ceci serait de rendre les virus contemporains autonomes. Mais j'espère que personne ne va s'y attacher, parce qu'ils sont déjà tellement embêtants en étant parasites, s'ils se mettent à être autonomes. Donc que personne n'essaie dans la salle, s'il vous plaît. Mais ça serait une bonne vérification de démontrer que la vie cellulaire a pu être précédée par un monde viral dans lequel ce sont les virus. Donc nous serons tous peut-être descendants de virus, mais enfin pour l'instant, on ne sait pas. Donc on cherche quand même. Alors on pense néanmoins que c'est simple, et j'aime beaucoup cette peinture de Kandinsky qu'il a intitulée « Complexité simple ». Donc c'est complexe, certes, mais relativement simple quand même, suffisamment simple pour qu'on puisse le comprendre, le reproduire en tube à essai et être retrouvé ailleurs sur un corps céleste qui présente de l'eau liquide et la chimie du carbone. Alors pour l'ARN, la difficulté, c'est que l'ARN est constitué par une chaîne, un collier dont les perles sont les nucléotides qui sont ici. Donc un nucléotide, la perle qui constitue le collier, comporte un phosphate, ça c'est assez facile, une base qui sert à la reconnaissance par liaison hydrogène, encore une fois, liaison hydrogène ici grâce à l'azote, aux azotes, et un sucre. Et ce sucre-là, qui est le bêta-déribofuranose, un petit sucre, cycle à 5 avec un oxygène ici. Ce sucre est vraiment notre enfer, puisqu'on ne comprend pas comment il a pu apparaître spontanément à partir de composés simples présents dans la soupe primitive. Actuellement, beaucoup de travaux portent sur des systèmes qui auraient précédé le monde de l'ARN et une chimie sur surface minérale. Alors, cette chimie sur surface minérale, on the rocks, comme on dit, en franglais, a beaucoup d'avantages. Elle permet une absorption sélective, des interactions ioniques, une mobilité réduite. La mobilité réduite, lorsque vous êtes en solution, vous avez 6 degrés, les molécules se bougent en bénéficiant de 6 degrés de liberté. Vous avez les trois axes X, Y, Z, et autour de chaque axe, une rotation, donc le tangage, le roulé, le looping. Et donc, ça, c'est trop de liberté. Trop de liberté tue la chimie. Donc, ce qu'il faut, c'est réduire les degrés de liberté en plaquant les molécules sur une surface. En plaquant la molécule sur une surface, vous réduisez le nombre de degrés de liberté de 6 à 2, puisque vous n'avez plus que x, y. Ils ne peuvent plus bouger que dans deux directions. Ils ne peuvent plus monter, ils ne peuvent pas sauter, ni rouler, ni etc. Donc, actuellement, beaucoup de travaux se font sur la recherche de systèmes autocatalytiques, donc vivants, simples, se développant sur des surfaces minérales. Et on pense qu'après, ces composés ont quitté les surfaces minérales parce qu'il fallait bien occuper l'espace mieux que la surface. Où trouver ailleurs les ingrédients de base de la vie terrestre ? Donc, c'est la question suivante. Les ingrédients, c'est bien sûr la chimie, du carbone et l'eau. Et c'est la deuxième partie donc, qui traitera plus spécifiquement de la recherche de vie extraterrestre. Et bien sûr, notre cible privilégiée est Mars. Mars a bonne taille, un peu loin du Soleil, mais pas trop loin quand même. Et il y a de la glace d'eau sur Mars. Ça, c'est attesté au pôle en particulier ou dans certaines caldeiras comme ici. Mais la glace d'eau ne nous intéresse pas trop. Il nous faut de l'eau à l'état liquide. Alors là, on a des lits de rivières asséchées. Je vous recommande de regarder sur le site de l'Agence spatiale européenne. Mars Express, qui est un orbiteur autour de Mars européen, comporte une caméra stéréo haute résolution qui est pilotée par Gerhard Neukum, un Allemand de Berlin, et qui donne des photos en stéréo magnifiques hein, de canyons. Alors, ces canyons n'ont pas la forme d'une vallée glaciaire, donc on peut déjà éliminer des glaciers qui auraient coulé. Certains pensaient à une espèce de gel de dioxyde de carbone. Donc, il nous fallait des preuves de la présence d'eau à l'état liquide. Il y a d'autres photos. Ici, vous avez une rivière qui s'est déversée dans un cratère d'impact en déposant un cône de déjection, un peu exactement comme dans les Alpes. C'est vraiment des photos que je trouve superbes. Les Américains ont... Alors, ça, c'est photo de haut hein, d'un orbiteur. Les Américains ont déposé deux petits rovers, deux petits véhicules automatiques qui s'appellent Spirit et Opportunity. Spirit s'est posé dans Gusev Crater, un cratère qui a été colmaté par des sédiments de cette rivière qui est Madim Vallis, ici. Il s'est posé là. Morne plaine avec des roches volcaniques, pas très intéressant. Son petit frère Opportunity s'est posé à un endroit qui est quasiment du grès. Donc, coup de chance extraordinaire, il s'est posé à côté de sédiments et il a pu démontrer la présence de ces fameux myrtilles, blueberries, qui sont de l'hématite, et donc de l'hématite qui a été façonnée par de l'eau liquide. Donc, c'est la première preuve tangible de la présence d'eau. Et enfin, Mars Express comporte aussi un spectro infrarouge piloté par Jean-Pierre Bibring d'Orsay, et qui a analysé la surface de Mars. Tout ce qui est bleu, ce sont des argiles. Souvenez-vous, les argiles ne peuvent être produites que par érosion, par l'eau de silicate, de phyllosilicate. Donc Mars a connu deux grands océans à sa surface. Donc Mars avait nécessairement une atmosphère pour maintenir ces océans. Donc Mars avait forcément un frein pour les micrométéorites. Donc Mars a connu à sa surface, des conditions identiques aux conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre. Donc, ça nous encourage vivement à les prospecter. En ce qui concerne la chimie du carbone, Viking n'a pas trouvé de molécule organique à la surface, mais il a démontré que la surface de Mars est oxydée. Donc, nous savons que l'oxydation est un poison pour les molécules organiques. Donc, pas de vie et pas de vie et pas de molécules organiques à la surface. Mars Express comporte aussi un spectro qui permet d'analyser l'atmosphère, piloté par un Italien, Formisano, et qui a détecté du méthane. Le méthane a deux origines possibles, soit purement géologique comme le méthane des volcans, soit produit par des bactéries qui, sur Terre, on appelle des méthanogènes, produisent du méthane. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si ce méthane est purement géologique ou si ce méthane est d'origine biologique. Et si le méthane est d'origine biologique, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, sous le pergélisol, profondément enfoui dans le sol martien, existeraient encore des colonies de bactéries capables de produire du méthane, donc de vivre. Pour l'instant, c'est toujours un grand débat. Et il y a une réunion à l'ESTEC, à l'ESA, il n'y a pas très longtemps. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup apporté plus de preuves que ces analyses de méthane dans l'atmosphère qui ont été confirmées par les observations du sol terrestre, par des télescopes. On a eu une fausse joie concernant la vie martienne. Il existe actuellement dans les collections de météorites 50 météorites qui proviennent du même corps parent, ça c'est sûr. Donc, et dans une de ces météorites, il y a une poche de gaz dont la composition correspond à l'atmosphère martienne mesurée par Viking. Donc, il y a 90-95% de chances pour que ces 50 météorites viennent de Mars. Pour en être absolument certain, il nous faudrait juste un petit milligramme de vraie roche martienne pour calibrer, comme étalon pour calibrer ces 50 météorites. Pour l'instant, nous ne l'avons pas, mais nous espérons qu'il y aura bientôt un retour d'échantillons martiens. Ça rappelle quelque chose au programme premier. Dans cette météorite, les Américains ont dit découvrir quelque chose qu'ils ont qualifié de nanobactéries martiennes. Alors, Magritte aurait dit, ceci est l'image d'une bactérie, mais ce n'est pas une vraie bactérie. Et en fait, il a été démontré depuis que a été produit très probablement par le séjour de cette bactérie en Antarctique de 13 000 ans. Et même en Antarctique, il y a des infiltrations d'eau qui ont fabriqué ce type de structure. Donc, pour l'instant, on n'a pas de preuves absolues. Notre deuxième candidat dans le système solaire est Europe. Europe est une lune de Jupiter qui est couverte de glace et dont l'épaisseur peut aller de 10 km à 100 km. Et sous cette glace, il y a un océan d'eau salée. Donc ça, c'est confirmé maintenant, à peu près sûr, qu'il y a sous la carapace de glace. Et donc, s'il y a au fond de cet océan des fumeurs noires comme sur Terre, il y a peut-être là un réacteur chimique capable de produire des molécules organiques et donc éventuellement de la vie. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'il y a un magma. Pour faire fondre la glace et avoir un océan d'eau liquide, on peut utiliser l'effet de marée. Europe a une trajectoire elliptique autour de Jupiter qui exerce une force de gravitation énorme. Donc il y a des frictions, des marées de friction qui sont suffisantes pour faire fondre la glace. Pour avoir un magma, il faut fondre un silicate, donc 1200 degrés. Et pour qu'il y ait, on ne sait pas s'il y a suffisamment de chaleur pour fondre les silicates. Pour l'instant, c'est une question qu'il faut résoudre avant de s'extasier sur la vie européenne sous glaciaire. L'autre, la lune, ça c'est Titan, qui est une lune de Saturne, qu'on ne voit jamais parce que Titan est entouré d'une atmosphère de chimie organique, d'aérosol, où la chimie organique est extrêmement, extrêmement productive et qui a été analysée grâce à la sonde Huygens qui a été transportée par la mission Cassini. Huygens est une sonde européenne et François Roulin de Créteil a pris une part active dans l'analyse de Titan. Titan, donc la chimie du carbone est acquise sur Titan. La présence d'eau liquide est impossible car il y fait trop froid, il fait moins 180 degrés à la surface de Titan. Il y a des ruissellements, mais ce sont des ruissellements de méthane et d'éthane liquide. Et il y a des lacs d'éthane, ça c'est un lac ici d'éthane, méthane-éthane liquide, avec une île ici dont le diamètre fait 150 km. Donc vous voyez, ce sont d'énormes quantités de méthane et d'éthane liquide qui pourraient intéresser les pétroliers si Titan était moins loin de la Terre. Encelade est une autre lune de Saturne. Allez, à propos de Titan, je dois préciser que les modèles, à partir des photos prises par Cassini et des mesures prises par Cassini, donc l'orbiteur autour de Saturne, il est possible, les modèles prédisent la présence de poches d'eau, de réservoirs d'eau liquide à l'intérieur de Titan. Mais pour l'instant, ceci est encore une fois un modèle et on n'a pas de preuve absolue de la présence de ces océans. Mais s'il y a chimie du carbone et un réservoir d'eau liquide, il n'est pas exclu qu'une vie bactérienne se développe à l'intérieur de Titan. C'est le cas également d'Encelade. Encelade est une lune glacée de Saturne qui a été photographiée par Cassini, qui tourne toujours autour de Saturne et qui a photographié des panaches de glace et de molécules organiques au pôle sud d'Encelade qui proviennent probablement, ces panaches, d'un réservoir d'eau liquide à l'intérieur d'Encelade. Donc ça, c'est ce que nous avons dans le système solaire qui est à portée de mission. Au-delà du système solaire, les astronomes et radioastronomes nous ont apporté d'excellentes nouvelles en nous disant que la chimie du carbone est universelle, puisqu'ils ont détecté plus de 110 molécules de carbone, donc organique, dans les milieux interstellaires. Donc la chimie organique, la chimie du carbone qui nous intéresse, est universelle. Pour savoir si cette chimie est capable de produire des acides aminés, les radioastronomes ont beaucoup de difficultés à détecter les acides aminés car ils n'ont pas les propriétés requises pour être visibles, détectés facilement. Alors il y a un grand débat actuellement sur la présence ou non de glycine dans ce milieu interstellaire, donc dans ces nuages denses de gaz et de poussière. Et donc ce que nous avons fait avec des collaborateurs néerlandais, nous avons essayé de reconstituer cette chimie en laboratoire. Donc ils ont irradié des glaces, puisque le milieu interstellaire est très froid, il fait 12 K, donc moins 260 degrés. Et donc, à très basse température, irradier des glaces d'eau, de monoxyde de dioxyde de carbone, de méthanol, d'ammoniac, ont été irradiés. On obtient un composé brunâtre, jaunâtre, et qui a été analysé dans mon laboratoire à Orléans, et dans lequel on a identifié 16 acides aminés, dont 6 font partie des 20 acides aminés protéiques, donc glycine, alanine, valine, proline, sérine, acide aspartique. Donc ceci démontre que lorsque l'on mime la chimie qui se développe dans le milieu interstellaire, oui, on arrive à synthétiser des acides aminés. Est-ce que ces acides aminés peuvent voyager dans l'espace sans être détruits par les conditions de l'espace, qui est le froid, le vide, les radiations? Alors nous avions accès à des satellites russes automatiques Photon, sur lesquels l'agence spatiale visse un petit, ce qu'on appelle biopan, donc une casserole biologique qui a un couvercle, et dans ce couvercle nous exposons nos acides aminés ici pendant 15 jours en orbite terrestre avec récupération de la casserole. Nous avons eu un vol de 3 mois sur la station Mir avant qu'elle ne soit détruite. Dans ce cas-là, il faut que c'est Jean-Pierre Aigneret qui est sorti en sortie extravéhiculaire pour visser la casserole à l'extérieur de la station, 3 mois. Et nous avons donc démontré à ce stade que si on protège les acides aminés par 5 microns, donc 5 millièmes de millimètre de poudre de météorite, ces acides aminés voyagent sans danger dans l'espace. Donc toute micrométéorite plus grosse que 5 microns est un bon vecteur pour les acides aminés. Actuellement, nous avons une casserole qui est fixée, un système d'exposition qui est fixé sur le module russe. Nous avions également un module fixé à l'extrémité de Columbus, qui est le laboratoire de physiologie humaine de l'Agence spatiale européenne. Pendant 1 an et demi, nous avons récupéré le système d'exposition qui est là. Nous avons actuellement, nous sommes en train d'analyser nos acides aminés qui ont séjourné pendant 1 an et demi dans l'espace. Donc, il y a la possibilité de synthétiser des molécules carbonées dans l'espace. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver des sites où existe de l'eau à l'état liquide. Donc, chercher des planètes au-delà du système solaire qui soient ni trop grosses, ni trop petites, ni trop loin, ni trop près de l'étoile. Et les astronomes avancent bien depuis 1995, puisque 424, j'ai pas pris Internet ce matin, c'est Jean Schneider qui tient à jour le catalogue, 424 planètes extrasolaires ont été détectées à ce jour. Le 3 février 2009, la mission française Coro a détecté Coro Exo 7b, qui fait 1,7 fois la Terre. Toutes ces planètes, ici 424 planètes, la plupart de ces planètes sont très grosses parce que le système de mesure qui se fait par vitesse radiale ne voit actuellement que des grosses planètes comme Jupiter et Saturne, qui sont trop grosses, donc gazeuses. Alors on cherche des planètes qui soient plus petites. Souvenez-vous, bonne taille, pas trop gros, gazeux, pas trop petit, pas d'atmosphère. Et la plus petite a été détectée par Coro. Malheureusement, on ne voit que c'est par méthode dite des transits, donc la petite éclipse qui est provoquée par le passage de la planète devant l'étoile. Malheureusement, pour les voir, il faut qu'elle passe souvent. Et si elle passe souvent, c'est qu'elle est proche de l'étoile, donc trop chaude. Elle serait, la température à la surface de cette petite planète serait de 1000 degrés. Donc, c'est qui exclut totalement la présence d'eau et la chimie du carbone. Et les Américains ont lancé la mission, le télescope spatial Kepler, qui va ausculter 100 000 étoiles dans la région du Cygne. Et donc, on attend avec impatience les premières petites planètes qui soient à la bonne taille et à la bonne distance de l'étoile. Et comment détecter une vie extraterrestre? Alors, dans le système solaire, on envoie des missions. Et actuellement, sont en préparation la mission Mars Science Laboratory qui sera envoyée en 2011, l'année prochaine, et qui va rechercher les molécules organiques. Une fois que l'eau a été établie, la présence d'eau dans le passé a été établie, maintenant il faut passer à l'étape suivante, les molécules organiques, la chimie du carbone, les traces de vie, les oxydants. Donc ça, c'est la petite mission à laquelle participent pas mal de laboratoires français. Les Européens sont en train, avec un peu plus de peine, à mettre au point ExoMars, donc un petit robot encore, qui aura une foreuse qui va donc passer la couche oxydée ou fouiller les roches et donc analyser, rechercher également les molécules organiques et les traces de vie fossiles. Alors, on cherche des traces de vie fossiles. Ça, ce sont des bactéries fossiles qui sont vieilles de 3,33 milliards d'années, qui proviennent de Barberton en Afrique du Sud et qui ont été trouvé par Frances Westall, qui est actuellement à la tête de l'équipe d'exobiologie du labo à Orléans. Et donc, c'est ce type de fossiles que l'on recherche. On recherche également, donc ça, ce sont des fossiles, des bactéries fossilisées. On recherche également des concrétions fabriquées par des colonies de bactéries. Ce sont les fameux stromatolites. Ce sont des stromatolites contemporains ici. Et ça, ce sont des stromatolites qui sont vieux de 3,4 milliards d'années, qui sont comme des millefeuilles. Les stromatolites sont fabriqués par des colonies de bactéries qui sont photosynthétiques. Alors, elles utilisent l'énergie solaire tout en provoquant la précipitation de calcaire. Et quand elles ne voient plus le soleil, elles migrent sur la couche supérieure pour revoir le soleil. Et donc, au bout d'un certain temps, ça forme un millefeuille qui est caractéristique. Et en Australie, Abby Allwood a découvert 7 types différents de stromatolites, donc ce qui prouve bien que la vie existait bactérienne, photosynthétique, probablement sans production d'oxygène, il y a 3,4 milliards d'années. Donc c'est ce que nous cherchons également à la surface de Mars. Sur Europe, il faut passer la couche de glace, donc passer 10 km ou voire 100 km pour aller voir fouiller l'océan. Et voir si au fond de l'océan, ça c'est une vue de l'artiste, il y a peut-être des fumeurs noires. Et donc ensuite, la difficulté, c'est qu'il faut passer la couche de glace. Les Américains sont en train d'étudier des petits systèmes qui seraient capables d'auto-s'enfouir dans la glace. La glace se referme derrière pour aller voir ce qui se passe dans l'océan européen. Pour les exoplanètes, on va regarder s'il y a dans l'atmosphère des produits qui sont typiquement fournis par une vie sur Terre. L'oxygène de l'atmosphère, l'oxygène que nous respirons aujourd'hui, a été produit intégralement par la vie terrestre. Donc, si on trouve dans l'atmosphère de l'oxygène, du gaz carbonique et de la vapeur d'eau, il y a de très grandes chances pour qu'il y ait à la surface de cette planète des systèmes vivants qui pratiquent la photosynthèse oxygénée, donc avec production d'oxygène. Donc, comment regarder cette analyse? C'est relativement simple en principe. Vous avez une étoile, vous avez une planète. la planète est chauffée, elle reçoit de l'infrarouge par l'étoile et elle va rémettre un peu d'infrarouge. La Terre rémet un peu d'infrarouge. Et l'infrarouge qui est rémis par la planète traverse l'atmosphère de la planète avant d'arriver jusqu'à la Terre. Et donc, il faut, c'est comme un spectromètre classique avec une source d'infrarouge et un faisceau qui traverse un échantillon qui renferme, donc, et qui renferme, espérons-le, des biosignatures. Alors, c'est simple dans le principe, mais la lumière qui est l'infrarouge qui est rémis par la planète est extrêmement faible. Classiquement, on dit que ça revient à regarder un ver luisant à 1000 km d'ici, à côté d'un phare marin. Donc, l'idée, c'est la nécessité impérieuse. Il faut absolument éteindre, occulter l'étoile et ne regarder que la petite lumière qui vient de la planète. C'est ce qu'on espère pouvoir faire par interférométrie en mettant une flottille de télescopes réglée au millimètre près qui va donc observer la petite lumière qui est émise par la planète qui aurait traversé l'atmosphère. Et si on trouve de l'oxygène, de l'ozone, du CO2 et de l'eau, on pourra être confiant et dire que cette planète est habitée par des systèmes qui pratiquent la photosynthèse. C'est ce que je vais montrer ici. Et pour terminer, vous avez compris que tout repose maintenant sur... Avant d'être confiant dans l'existence d'une vie extraterrestre, tout repose sur le premier numéro 2. Démontrer que la vie n'est pas un accident fantastique qui s'est produit qu'une seule fois sur Terre, un one shot, comme disent les anglo-saxons, mais que c'est un phénomène relativement banal. À partir de 2, on pourra généraliser. Le pluriel commence à 2. Et j'aime bien les Pirayas, qui est une tribu de forêt amazonienne, qui ont des problèmes avec l'arithmétique. Pour eux, c'est 1, 2, après 2, c'est beaucoup. Bon, ça simplifie l'arithmétique. Nous, ça serait 1, 2 partout, mais partout avec des chances d'apparition. Et donc, ce que nous recherchons, c'est évidemment les chimistes dans le labo pour démontrer la simplicité, l'exploration du système solaire, l'auscultation des exoplanètes. SETI, alors SETI, c'est l'écoute des signaux intelligents, parce que l'univers s'est formé il y a 13,7 milliards d'années, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, donc entre 13,7, laisser 1 milliard d'années pour former les étoiles avec des éléments lourds, ça fait 12,7, entre 12,7 et 4,5, il y a largement le temps de faire des soleils, des terres, de l'eau, de la chimie du carbone, des bactéries qui évoluent vers des systèmes de plus en plus complexes, qui deviennent intelligents, technologiques et qui émettent. Alors, moi, ça me paraît, si ce n'est pas trop cher, ça me paraît raisonnable comme écoute. Mais bon, pour l'instant, c'est un silence radio, laser. La Terre, nous émettons des choses. Nous émettons les radars militaires, la télévision, etc., etc., émettent. Donc, pour l'instant, on n'a pas capté de signal intelligent. Mais ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer. Mais pour l'instant, il y a un blocage un peu culturel. Beaucoup n'aiment pas considérer que nous n'avons pas atteint le summum de l'intelligence universelle. Mais peut-être que nous n'avons pas atteint le summum. Parce que si les signaux arrivent, ça veut dire qu'avec la distance et le temps, ils sont apparus avant nous et ils sont plus évolués que nous. Ça serait intéressant de savoir comment ils évoluent, à quoi ils ressemblent, etc. Mais pour l'instant, et même les visiteurs, c'est pire encore, parce que là, on tombe dans la phobie, le fantasme des soucoupes volantes, etc. Personnellement, je dois avouer que je fais partie d'une commission de l'Association aéronautique et astronautique de France qui s'appelle PAN, pour les phénomènes aérospatiaux non identifiés, pour essayer d'apporter une explication rationnelle aux 5 à 10 % de cas qui n'ont pas aujourd'hui de relations d'observation de phénomènes, qui n'ont pas obtenu d'explication rationnelle, en appliquant l'esprit scientifique et rationnel et en mettant de côté toute la partie sentimentale, etc. qui sont... Donc, mais ça, c'est pire encore, les visiteurs extraterrestres. Si vraiment on avait la preuve tangible, il nous suffirait... Je vous ai dit qu'on avait des grains de micrométéorites plus petits qu'un micron, ou de l'ordre du micron. Il suffirait d'avoir un dixième, un centième de millième de milligramme avec les techniques actuelles d'analyse pour dire oui, ça, c'est vraiment laissé par des visiteurs extraterrestres. Pour l'instant, nous n'avons pas ce millième de milligramme en main pour attester ceci. Mais un visiteur prouverait que la vie est plurielle, au moins que nous avons ce fameux numéro 2. Et enfin, pourquoi s'acharner à savoir? Je pense que dans le contexte actuel, il est bon de rappeler, contexte politique, il est bon de rappeler que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à l'esprit curieux qui a toujours animé l'esprit humain. Et Einstein disait, il est important de ne jamais cesser de questionner. Donc, c'est grâce à ce questionnement permanent et ce besoin de trouver une explication que nous avons construit une culture. Et c'est poussé par cet impérieux besoin de satisfaire notre curiosité que d'une lave en fusion, pour paraphraser Antoine de Saint-Exupéry, d'une lave en fusion, d'une pâte d'étoile, d'une cellule vivante germée par miracle, bon, ça c'est à discuter, nous sommes issus et peu à peu, nous nous sommes élevés jusqu'à écrire des cantates et à peser les voies lactées. Associer Bach et l'astronomie, je trouve que c'est formidable. Et enfin, pour finir sur une note un peu plus philosophique, encore plus philosophique, la sonde Voyager 1, lancée en 1977, est arrivée aux confins du système solaire en 1990. Et lorsqu'elle était à 6 milliards de kilomètres de la Terre, elle se retourna et prit une photo de la Terre. C'est la fameuse photo de Pale Blue Dot, petit point bleu. Et c'est ce point ici, c'est le bureau des longitudes, là, ici. Et Carl Sagan a écrit ce texte que je trouve admirable, d'humilité et de morale. Nous avons réussi à prendre cette photo depuis l'espace lointain. Et si vous l'examinez, vous voyez un point, c'est ici, c'est nous. Pensez au fleuve de sang versé par tous ces généraux et empereurs pour qu'ils puissent, dans la gloire et le triomphe, devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Pensez aux cruautés infinies infligées par les habitants d'un coin de ce point à des habitants difficilement différenciables vivant sur un autre coin de ce point. Merci.
La vie dans l'univers, du rêve à la réalité, c'était le thème de la conférence d'André Braque, astrobiologiste au Centre de biophysique moléculaire au CNRS d'Orléans, conférence donnée en février 2010 au Bureau des longitudes à l'Institut de France. Pour connaître la programmation du Bureau des longitudes, nous vous invitons à consulter leur site bureau-des-longitudes.fr. Les conférences sont ouvertes au public et puis vous pouvez vous rattraper en écoutant la retransmission de ces interventions sur le site de Canal Académie, émission en colloque, rubrique science. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain rendez-vous sur canalacademie.com.